journal est présenté par Antoine de Necher.
Bonsoir. C'est presque une entente cordiale. Angela Merkel et Theresa May se sont vus pour la première fois à Berlin tout à l'heure et les deux chefs de gouvernement ont convenu qu'il fallait laisser du temps au Royaume-Uni pour sortir de l'Union européenne. Nous serons en ligne avec David Philippot en Allemagne. S'agit-il d'un crime politique ? Un journaliste réputé pour son indépendance et sa plume acerbe face à Kiev et face à Moscou a été tué aujourd'hui dans la capitale ukrainienne. Sa voiture a explosé. Nous irons également aux États-Unis où le colistier de Donald Trump, Mike Pence, s'exprime ce soir devant le Congrès du Parti républicain. Puis comme prévu, Manuel Valls passe en force en France. Il utilise le 49-3 pour faire adopter la loi travail. Le texte sera définitivement adopté demain, mais les opposants vont saisir aussitôt le Conseil constitutionnel. Chacun fait donc un geste. Ainsi peut-on résumer la visite de Theresa May à Berlin ce soir. La toute nouvelle chef du gouvernement britannique a effectué en Allemagne sa première sortie officielle à l'étranger après sa nomination et après le vote de son pays en faveur du Brexit il y a un mois. Le Royaume-Uni, juste avant, avait fait savoir qu'il renonçait à exercer la présidence tournante de l'Union européenne l'an prochain. Angela Merkel, de son côté, s'est montrée, disons, compréhensive sur le calendrier de sortie de l'Union proposé par son homologue britannique. David Philippot.
Brexit signifie Brexit. La première ministre britannique a répété que son pays allait sortir de l'Union européenne, mais seulement à moyen terme.
Cela va prendre du temps et demander un travail très sérieux et très précis. Nous allons tous avoir besoin de temps pour comparer et le Royaume-Uni ne va pas invoquer l'article 50 avant que nos objectifs ne soient clairs. Et c'est pour cela, je dois déjà vous le dire, que cela n'aura pas lieu avant la fin de cette année.
À ses côtés, Angela Merkel s'est dit prête à faire preuve de patience.
Il est dans l'intérêt de tous que la Grande-Bretagne demande cette sortie quand elle aura une position de négociation bien définie. C'est aussi dans l'intérêt de l'Union européenne et nous allons donc attendre le moment.
D'une même voix, les deux dirigeantes ont mis en avant les valeurs culturelles, historiques qui unissent leurs deux pays et surtout leur intérêt commun qui est de limiter la casse sur le plan économique. L'Allemagne est le deuxième partenaire commercial du Royaume-Uni et la Grande-Bretagne est la troisième destination des produits made in Germany.
Merci David Philippot à Berlin pour France Culture. Justement, en Allemagne, deux jours après l'attaque à la hache dans un train en Bavière, les premiers éléments de l'enquête suggèrent que son auteur, qui avait été abattu par la police, est un loup solitaire poussé à l'action par la propagande de l'État islamique. Je cite le ministre de l'Intérieur, c'est peut-être aussi un cas à la limite entre la crise de folie meurtrière et le terrorisme. Il se serait, je cite encore, senti aiguillonné par la propagande de Daesh. Attention toutefois à ne pas parler, comme pour l'auteur de l'attentat de Nice d'ailleurs, d'une radicalisation rapide. C'est ce que nous explique ce soir l'historien Cédric Masse.
Je réfute cette notion de radicalisation. Le terme n'est pas correct, mais le passage à l'acte peut être lié à des stimuli qui sont très rapides. Donc en effet, ça peut être 8, 2 jours. Mais on va découvrir que la personne baigne dans un environnement qui la rend réceptive aux stimuli du djihad depuis bien plus longtemps. La colère, la révolte, ça rend réceptif au message de la propagande de l'État islamique. Et cette propagande, elle est souvent consultée, suivie, reçue depuis des mois et des mois. Ce ne sont pas des loups solitaires. Ils sont intégrés, sociabilisés. Ils baignent dans un univers de vidéos, de messages qu'ils vont rechercher et qui vont alimenter leur propre psychose et qui vont les pousser à un moment donné à passer à l'acte. J'ai en mémoire le cas d'une personne qui était emprisonnée dans le nord de la France et qui était dans la volonté du passage à l'acte, tout à fait assumé, simplement parce que sa petite copine l'avait quitté alors qu'il était en prison. Et quand elle est revenue vers lui, eh ben il a cessé d'avoir la volonté de passer à l'acte. Ça veut dire qu'il baignait dans un univers qui le rendait ouvert et poreux aux injonctions du djihad, mais le passage à l'acte en lui-même, il y a toujours aussi un vécu personnel, une situation personnelle.
Des propos recueillis par Yannick Hanebon. La Turquie est suspendue depuis ce matin aux décisions importantes que doit annoncer le président Erdogan, pour reprendre ses propres termes, 5 jours après le putsch avorté. Une réunion du Conseil de sécurité turc a eu lieu cet après-midi à Ankara, suivie d'une réunion du gouvernement, et on attend donc toujours ce soir des annonces. Pendant ce temps-là, les purges se poursuivent. Deux membres de la Cour constitutionnelle turque ont été arrêtés, selon une télévision dans le pays. Et dans une interview à Al Jazeera ce soir, Recep Tayyip Erdogan demande à Jean-Marc Ayrault, je cite, de se mêler de ses affaires. Le ministre des Affaires étrangères avait réclamé dimanche le respect de l'état de droit en Turquie, refusant tout chèque en blanc au président Erdogan. Mystère et très vive émotion en Ukraine aujourd'hui après la mort d'un célèbre journaliste considéré comme pro-occidental et surtout critique acerbe à la fois des pouvoirs russes, ukrainiens et bélarusses. Pavel Chemeret, c'est son nom. Avec 44 ans, il a été tué par l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture à Kiev. On s'interroge évidemment sur les mobiles de son ou de ses meurtriers, Marc Crépin.
Et on peut dire que Pavel Chemeret ne manquait sans doute pas d'adversaires ou d'ennemis, originaire de Biélorussie, dont il critiquait le régime dictatorial d'Alexandre Loukachenko. Il s'était réfugié en Russie en 2000, à une époque où les médias n'étaient pas contrôlés par le pouvoir. Mais c'est aussi parce qu'il ne pouvait plus supporter la ligne éditoriale de la télévision qu'il avait embauchée, qu'en 2014, au moment de la révolution de Maïdan, il a démissionné pour se retrouver à Kiev. Sur les vidéos qui tournent partout depuis ce matin, on voit sa voiture arriver à un carrefour de la capitale ukrainienne et au moment où il met son clignotant survient une explosion, une bombe sans doute peu puissante mais suffisamment pour tuer le journaliste. Ici c'est la consternation, le président ukrainien Porochenko dit qu'il a perdu un ami très proche et le Kremlin se dit inquiet. Pavel Chemeret était un journaliste intransigeant, il écrivait pour le site Ukrainskaya Pravda, apparaissait aussi souvent à la télévision et animait des émissions d'information à la radio.
Une correspondance de Marc Crépin à Moscou. Après son investiture officielle par le Parti républicain la nuit dernière aux États-Unis, Donald Trump espère maintenant souder son camp avant d'affronter Hillary Clinton en novembre prochain. Pour cela, avant le grand show final de jeudi prochain devant les 2500 délégués de la convention républicaine à Cleveland, l'homme d'affaires new-yorkais compte sur celui qu'il a choisi pour devenir éventuellement son vice-président, le gouverneur de l'Indiana, Mike Pence, qui doit s'exprimer dans la soirée, Frédéric Carbone.
Le directeur de campagne de Donald Trump le dit sans précaution oratoire, Mike Pence aura l'occasion ce soir de se présenter à des Américains qui ne le connaissent pas. Sa réputation n'a guère franchi la frontière de son État, l'Indiana, et les trois quarts des personnes interrogées dans un sondage n'ont aucune opinion sur lui. Si Mike Pence est utile à Donald Trump, c'est en fait parce qu'il est son exact opposé, en termes de caractère la glace plutôt que le feu, et idéologiquement, un conservatisme rigide jamais démenti. Dans les couloirs de la convention, des délégués affirment d'ailleurs qu'ils sont rassurés par la présence de Mike Pence, un homme dont les démocrates disent qu'il serait le vice-président républicain le plus à droite depuis des décennies. Il a par exemple défendu l'an dernier un texte légitimant une forme de discrimination vis-à-vis des homosexuels. Sur le commerce international, l'avortement ou la guerre en Irak, les deux hommes ont tenu dans le passé des propos très différents, mais tout cela n'est pas important, affirme Trump. Le candidat a largement volé la vedette à son colistier lors de leurs apparitions communes. Tout à l'heure, sur la scène de l'Arena de Cleveland, Mike Pence sera enfin seul.
Merci Frédéric Carbone. En France, le Sénat vient d'adopter le projet de loi prolongeant pour 6 mois l'état d'urgence, tout en durcissant le texte. 26 sénateurs ont voté contre et 310 pour. Le texte pourrait être adopté définitivement demain à l'Assemblée. Et puis demain après-midi, la loi travail sera définitivement adoptée. En effet, après 4 mois de débats et de fortes mobilisations sociales, le Premier ministre, comme prévu, a activé l'article 49.3 aujourd'hui pour faire passer le texte sans débat et sans vote à l'Assemblée. Car Manuel Valls le sait, il n'a pas de majorité à gauche. Et comme cette fois, aucune motion de censure ne sera déposée, le projet deviendra la loi dès demain, même si les opposants ne désarment pas Violette Voldoir.
Oui, plusieurs dizaines de députés de droite comme de gauche saisiront le Conseil constitutionnel. Et d'après nos informations, ils seront au moins 60. C'est le nombre minimum requis pour que cette saisine soit validée. Les députés attendent ensuite une réponse avant la fin de l'été. Donc sur quoi va porter cette saisine, on ne le sait pas précisément encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle portera sur plusieurs questions concernant la loi travail. Mais pas sur l'intégralité du texte. Car si le Conseil décidait de valider la loi dans son ensemble en plein cœur de l'été, alors plus aucun recours ne serait possible à la rentrée. Et les députés veulent éviter à tout prix de fermer cette porte. Au contraire, ils veulent ouvrir la voie à un combat juridique de longue haleine contre la loi travail. Comment cela ? Eh bien, grâce au calendrier de mise en application de la loi, les premiers décrets ne seront pas publiés avant l'automne prochain. Le gouvernement doit en effet mener des consultations nombreuses. Par exemple, il devra interroger l'instance consultative sur l'égalité homme-femme pour tous les articles concernant l'égalité salariale. Or, une fois que la loi s'appliquera dans les faits, on pourra ensuite s'apercevoir que ce qui marchait sur le papier est en fait contraire au principe de la Constitution. C'est là qu'il faudra déposer des QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Et ce combat-là, ce ne sera pas les députés qui le mèneront, mais les syndicats qui prévoient déjà de contester pied à pied les articles de la loi travail qui seront publiés peu à peu dans les prochains mois.
Explication signée Violette Voldoire. La météo demain matin, risque orageux dans le sud-ouest, puis dans l'après-midi sur une large zone qui ira des Pyrénées au nord-est jusqu'à la région Rhône-Alpes. Ailleurs, un temps nuageux avec quelques risques d'averses. Seul le pourtour méditerranéen et la Provence garderont un temps ensoleillé. Température demain matin entre 14 et 22 degrés. Merci à Jean-François Braun pour son aide et Nicolas Delmas à la prise de son.